Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Bonjour, nous n'avons pas vu Place Publique, le dernier Bacri Jaoui, ni Escobar avec Javier Bardem, ni le documentaire sur Nico. On garde tout ça pour la semaine prochaine, mais on a vu bien d'autres choses. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour à tous.
Bonjour. Alors, de quoi on va parler, Marine ?
Alors moi je vais vous parler de deux films français, Largué et Love Addict, qui heureusement valent mieux que leur titre. Et on aura même également l'interview de l'équipe du film de Largué.
Et toi Manu ?
Deux films américains pour le coup, L'île aux chiens de Wes Anderson et My Wonder Woman d'Angela Robinson.
Et quant à moi, eh bien, ce seront des films, l'un qui se passe sur une île, Jersey, c'est Jersey Affair, et puis l'autre qui se passe dans la toundra norvégienne, Sonate pour Rousse. Et puis, eh bien, on vous proposera aussi un blind test spécial Milos Forman qui nous a quittés. Il y a peu, c'est Cinérama qui débute avec eh bien, une comédie française.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Je m'appelle Gabriel, j'ai un problème. Je ne peux pas résister à une femme. C'est plus fort que moi. Il se passe un phénomène physique. Je suis une espèce d'amoureux permanent.
Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est le printemps, hein. Je ne sais pas si c'est parce que je vieillis, en tout cas une fois n'est pas coutume, je vais aujourd'hui vous dire du bien de deux comédies françaises, et même pire, je vais vous dire du bien d'une comédie française avec Kev Adams, c'est donc Love Addict de Franck Belloc. Alors Gabriel est un éternel amoureux des femmes, bon si le même personnage était féminin on dirait que c'est une info, mais le sujet n'est pas là, et cela lui cause bien du tort puisqu'il est incapable de résister à une femme, qu'elle soit jeune, vieille, belle, laide, il les aime toutes, et malgré son talent de directeur commercial, sa réputation de tombeur le précède et l'empêche de retrouver du travail. Il vit avec son oncle fantastique, Marc Lavoine, et je pèse mes mots, qui est agoraphobe et qui souffre de la même addiction que lui et qui le persuade de se faire soigner. Gabriel rencontre donc MZ, Marie-Zoé, une psy un peu gaffeuse qui traverse elle aussi une période de remise en question et dont le délicat travail va être de le coacher afin qu'il arrête de succomber à toutes les tentations.
Je dois vous observer 24 heures sur 24.
Ah non, mais ça, c'est pas possible. Je vis avec mon tonton Joe, sa femme l'a quitté il y a 2 ans.
Mais c'est pas négociable.
C'est hors de question, Gabriel. Aucune femme ne rentre ici. Pas dans le temple.
Bon, bah, allez-y, entrez, je vais vous montrer votre chambre. Enfin, ma chambre.
Et vous ?
Bah, je me disais, comme le lit est très grand, on va pas se gêner.
Elle m'a giflé, avec ses nichons. T'appelles ça comment, toi ?
Des giflons ?
Des giflons, plein front.
Tu te rends compte que depuis qu'elle s'occupe de moi, j'ai pas séduit une seule fille ?
Eh bien, je vous jure, c'est même plus drôle que dans la bande-annonce, en vrai, dans le film. Alors ici, la comédie romantique est taillée pour le marché américain. Paris est un Paris de carte postale, où il fait toujours beau, où les gens sont habillés dans des couleurs pop et où les appartements donnent bien évidemment sur la tour Eiffel. Les codes de la comédie romantique américaine sont tous présents, mais ils sont bien utilisés. Et le scénario très bien écrit, je le précise, réussit même à nous surprendre par moments, notamment grâce à la présence au casting de Michael Madsen. Et oui. Alors, autre bon point, et malgré son sujet, le film parvient à naviguer en évitant systématiquement les écueils du sexisme, du racisme. Bon, en même temps, peu de risques, hein, le casting est plus blanc que blanc. Grâce à de très bons dialogues et un casting impeccable, à part une personne, devinez laquelle. Alors en promo, hein, les équipes de films savent qu'il ne faut surtout pas employer le terme féminisme, parce que le progrès, ça pourrait faire fuir les spectateurs. Non, il faut employer le terme girl power. Et comme le dit Kev Adams lui-même, eh bien Love Addict est un film très girl power, et blague à part, il n'a pas tort. Si on fait abstraction du fait que le héros ne croise que des chaudasses prêtes à avoir des rapports sexuels immédiatement, la vision de la femme est heureusement respectée, voire même moderne. En fait, le seul problème du film, bah, c'est Kev Adams. Dommage qu'il soit de tous les plans, car tous les comédiens sont impeccables, hormis lui, dont le jeu est quand même bien en dessous. Alors, on lui en est quand même reconnaissant d'avoir abandonné les rôles de lycéen. À 26 ans, il était temps. Love Addict incarne peut-être enfin le tournant adulte et de qualité qu'il a tenté d'amorcer sans succès depuis 3 films. Ami public, Gangsterdam et Là-haut, tous les 3 des échecs critiques et commerciaux. Mais en même temps, est-ce que l'on a envie de le voir davantage ? Pas sûr.
Bah en tout cas, les producteurs y croient.
Bon, en tout cas, non, mais le film est réussi. Voilà, dommage qu'il soit là.
Eh bien, on te retrouve tout à l'heure pour la deuxième comédie de cette émission. Ce sera Largué avec essentiellement des femmes au casting. Rien à voir avec un film qui s'intitule Jersey Affair.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu.
Alors, c'était sûrement une comédie.
Certaines traductions de films étrangers laissent quand même à désirer. Hein. Les distributeurs français aimant souvent atténuer, arrondir certains titres parfois explicites. C'est le cas avec Jersey Affair qui porte le nom original de Beast, soit bête. Voilà, une sémantique animale qui a plus à voir avec le film que l'affaire de Jersey. Même si le film s'inspire de l'histoire d'un violeur d'enfants qui a sévi pendant 10 ans sur l'île anglaise dans les années 60. Alors il n'est pas question pour le britannique Michael Pierce, dont c'est le premier film, de raconter cette histoire poussiéreuse qui s'est déroulée dans la plus française des îles anglo-normandes. Et au lieu de ça, eh bien, le réalisateur nous propose un film fourre-tout qui entrecroise les récits et les genres. Ainsi, il passe du thriller à la romance, transite par l'horreur psychologique, sur lequel plane le mélodrame familial. Nous sommes donc sur la petite île de Jersey, ou Moll, prénom que je ne connaissais pas, Moll, voilà, c'est comme ça. Une jeune fille qui fait le guide pour les touristes sur l'île tombe amoureuse d'un homme mystérieux, Pascal Renouf. Le film jette la base d'un premier nœud au moment de la rencontre des deux personnages, puisque Moll quitte sa fête d'anniversaire où elle s'ennuie ferme pour aller danser toute la nuit. Alors au petit matin, le type avec qui elle a passé la soirée à danser, eh bien, se montre insistant, refusant de comprendre à la manière d'un Weinstein ce qu'est un nom. Et c'est là que Pascal Renouf déboule avec son fusil à lunettes et fait décarpir le malotru. Blond, mal fagoté, cheveux en bataille, taiseux, il subjugue la jeune femme. Cet homme remplit un vide chez Moll qui, à l'image de Lille, est enfermé par sa famille. La relation avec sa mère, davantage capable d'être une tutrice, une moralisatrice qu'une personne aimante, donne lieu à des séquences glaçantes. Avec ce Pascal Renouf, eh bien, elle s'évade, elle souffle. Et tant pis si celui-ci est soupçonné un temps d'être le mystérieux tueur qui s'en prend aux jeunes filles de Lille. N'y a-t-il pas quelque chose qui les rapproche? La mise en scène plutôt habile de Michael Pierce cherche à désorienter le spectateur, ne nous laissant épouser que le point de vue de Moll. Il nous laisse avec ses doutes, ses pulsions sexuelles, ses envies d'anéantir la relation qu'elle a avec sa famille et plus largement avec la communauté insulaire, hein, qui voit d'un mauvais œil ce Pascal Renouf, comme elle soupçonne très vite que le violeur, eh bien, soit aussi un immigré portugais, parce qu'on a du mal à imaginer finalement que le bourreau soit parmi les siens. Ainsi, nous cherchons à comprendre qui est le tueur, qui est Pascal Renouf. Si ce n'est pas le tueur, eh bien, que cherche Moll chez ce garçon et qu'est-ce qui les unit ? Petit à petit, le réalisateur orchestre son récit avec des révélations venues du passé, jetant de plus en plus le doute sur ce personnage que nous suivons depuis le début et qui nous fait osciller entre empathie et horreur. Aimer un tueur, voilà, qui n'est pas finalement si banal. C'est pourquoi le réalisateur, qui a déjà épuisé plusieurs genres, les coiffe tous avec celui de la fable. Une fable initiatique, horrifique, celle de la jeune vierge qui rencontre le grand méchant loup en quelque sorte. Et les contrastes, eh bien, Michael Pierce les apprécie, ainsi les paysages magnifiques de l'île arrivent en contrepoint de l'horreur et les apparences sont trompeuses car le film, sous ses dehors de thriller insulaire, eh bien, raconte plutôt l'histoire d'une fille qui prend le pouvoir sur son corps, sur ses peurs, sur son passé, sur les siens et sur les hommes aussi. Pourquoi pas? Voilà, Jersey Affair, c'est sur les écrans depuis le 18 avril. C'est le premier film de Michael Pierce.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Le nombre de chiens a atteint des proportions colossales. Une épidémie de grippe canine se répand à travers la ville de Megasaki. Le maire, M. Kobayashi, ordonne des mesures d'urgence et réclame une quarantaine rapide. L'île poubelle devient un lieu d'exil. L'île aux chiens.
Manu, tu nous parles du réjouissant Wes Anderson.
Et oui, presque 10 ans après un fantastique Mr. Renard, Wes Anderson revient au cinéma d'animation avec un projet singulier et osé tant sur le fond que la forme. Alors loin des standards balisés qui sévissent au sein de DreamWorks ou Disney, L'île aux chiens s'avère une proposition de cinéma passionnante, alors redessinant les contours d'un genre trop souvent destiné à nos chères têtes blondes. Car ne nous y trompons pas, cette fable grinçante s'adresse davantage aux adultes qu'aux enfants qui préféreront se délecter devant Pierre Lapin, que je voulais chroniquer mais finalement je me suis dit que c'était pas la peine. Car le sujet affiche une noirceur assez radicale, même si elle est adoucie par un visuel séduisant et poétique et une narration tout entière dévouée à l'allégorie. Alors une allégorie politique qui résonne fortement dans un monde où nos dirigeants commencent à nous foutre la trouille et à voter des mesures arbitraires et injustes. Alors les rebuts de la société sont ici des chiens. La raison, une épidémie de grippe canine incite le maire de la mégalopole japonaise Megasaki, totalement fantasmé, d'expulser tous les chiens de la ville sur une île abandonnée, sorte de déchetterie géante, rappelant parfois avec quel mépris on ghettoise certaines populations. Alors ce no man's land déprimant où s'entassent les ordures porte le nom de l'île aux chiens. Et en contrepoint, le chat devient alors l'animal sacré, intouchable, ou comment vénérer une race au détriment d'une autre, habile stratagème ayant ses limites de politique sans scrupules. Alors heureusement, des bribes d'humanité subsistent dans cet océan de mépris. Le jeune Atari, neveu du maire, se rend sur l'île pour retrouver son fidèle compagnon Spot, aidé par une bande de chiens qui symbolise un peu les parias d'un système. le jeune homme découvre les véritables enjeux politiques de cette mise en quarantaine qui pourrait virer à l'épuration canine, pour ne pas dire ethnique. Alors tout n'est pas perdu, hein. Des jeunes étudiants aussi manifestent ainsi leur désaccord avec cette politique injuste visant l'extermination comme fin en soi, alors qu'un remède à la maladie existe bel et bien.
On a saisi l'idée. Tu recherches ton chien perdu, Spot.
Quelqu'un le connaît ?
Non. Non.
I've lost all of my pride.
Spots, s'il est en vie, pourrait tout aussi bien être en ce moment même retenu prisonnier, captif.
Quelqu'un mijote quelque chose.
Pourquoi je l'aiderai ?
Parce que c'est un petit garçon de 12 ans. Les chiens les adorent.
On va le retrouver.
Au nord, un long pont jeté branlant au-dessus d'un marais de boue nocive menant à une décharge radioactive polluée par des déchets chimiques toxiques. C'est notre destination. Super, d'accord. Préparez-vous à sauter.
Alors rarement, hein, Wes Anderson avait abordé la politique de manière aussi frontale et inquiète, loin de l'univers intimiste et cotonneux de la plupart de ses précédents films, légèrement déconnecté du réel. Alors toutefois, les premiers signes d'ouverture sur le monde extérieur étaient présents dans Grand Budapest Hotel sur fond d'Europe en pleine mutation. En situant l'action au cœur d'un Japon rétro-futuriste, Wes Anderson déploie des trésors d'inventivité graphique avec une mention spéciale pour un montage si précis et intelligent qu'il rend presque autonome des séquences construites comme des haïkus, sans jamais perdre le fil de la continuité de l'ensemble. Alors la mise en scène, hein, sublimée par une animation en stop-motion loin de la laideur numérique habituelle, reflète la maniaquerie excentrique d'un metteur en scène toujours obsédé par les détails, ivre d'une précision dans la gestuelle des personnages, la composition du cadre, l'architecture de décor jouant souvent sur la symétrie. Alors le trop-plein guette parfois ce cinéma qui porte le fétichisme à son paroxysme, mais contrairement à Jean-Pierre Jeunet, rien n'est gratuit. Bon, contrairement à ce que je viens de balancer sur Jeunet, mais bon. Alors tout est réfléchi et articulé au service du récit. Hein. Cette fantaisie, à la fois brutale, poétique et humaniste, parfois inspirée du théâtre kabuki, se permet quelques audaces folles, comme de ne pas sous-titrer ce que disent les humains. Ici, les Japonais. Hein. Alors, pour pallier à cette incompréhension, ils trouvent d'astucieuses parades, comme de traduire par des interprètes les discours importants retransmis à la télévision. Alors, le film, qui atteint une forme de perfection esthétique, n'a au fond qu'un défaut par rapport aux premières œuvres bricolées du cinéaste, plus fragiles et introspectives, comme Rushmore et La famille Tenenbaum, peut-être mes préférés. Hein. Celui de rester dans une posture assez distante. Hein. L'émotion est présente, mais elle se drape derrière une dérision trop maîtrisée pour bouleverser. Ce qui devrait nous terrasser, même nous indigner, tant Anderson fait référence à l'actualité avec son ignoble maire qui évoque aussi bien Trump, Poutine que Kim Jong-un, alors nous amuse davantage tout en ayant conscience de la portée idéologique de ce film d'animation pour adultes. En fait, quoi qu'il en soit, hein, L'île aux chiens reste une petite merveille de subtilité, hein, digne des meilleurs dessins animés de Isao Takahata, qui vient de décéder. C'est le réalisateur de, entre autres, Le Tombeau des Lucioles. Et, ah oui, non, mais ça, oui, c'est là, pas très drôle.
Pour le coup, il n'y avait pas trop de distance.
Mais voisin Yamada, surtout, qui est une excellente comédie. Voilà.
Et on peut peut-être parler des voix off très rapidement, parce que j'ai entendu Daniel Auteuil et puis Vincent Lindon, c'est alors, pas trop perturbant.
Oui, il y a aussi Isabelle Huppert, Léa Seydoux, Romain Duris, et puis aussi un curieux cinéaste qui s'appelle Nicolas Saada, qui était critique au Cahiers du cinéma. Donc je pense que c'est un apport d'Anderson lui-même, qui a supervisé, donc, comme Kubrick à une certaine époque, la version française.
Version française. Merci, on passe à la deuxième comédie de cette émission, avec une interview à la clé, c'est largué.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Deux sœurs que tout oppose décident pour l'anniversaire de leur mère de l'emmener à La Réunion. Elle a 60 ans, elle vient de se faire larguer par son mari et frôle la dépression. Pas sûr que ces deux filles absolument antagonistes parviennent à lui redonner le sourire. Rose, qui n'a de rose que le nom, est musicienne dans un groupe de rock et mène une vie de liberté et de bohème. Alice est quant à elle le parfait stéréotype de la trentenaire sage, organisée et responsable, mais quelque peu étouffée par sa vie de famille. Alors à peine arrivée dans leur hôtel, Rose fait la connaissance d'un séduisant barman et échafaude un plan imparable. Elle lui propose de draguer sa mère afin de lui redonner confiance en elle, mais naturellement, la situation dérape. Alors côté équipe, eh bien c'est aussi une histoire de famille. À la réalisation, on retrouve Héloïse Lang, déjà aux manettes de la mini-série Connasse qui a adoubé Camille Cotin. Camille Cotin qui joue ici le premier rôle en compagnie de Camille Chamou et de Miu Miu. Quant à l'humour, ce qui est quand même un petit peu essentiel pour une comédie, est-ce qu'il fonctionne ? Eh bien oui, le film ne révolutionnera pas le genre, mais il bouscule gentiment le politiquement correct et surtout il évite de tomber dans le girly. Larguer ce genre de comédie de nana, faite par des nanas, mais devant lesquelles les mecs ne s'emmerderont pas une seule seconde. Dommage juste que le film soit moche, mais alors vraiment très moche. Et pourtant, il a quand même été tourné dans l'un des plus beaux endroits de la Terre, La Réunion. Il a même été tourné intégralement pendant 2 mois. Alors là, vraiment, je ne sais pas où est passé le budget, mais sans doute pas dans le salaire d'un chef opérateur. Les comédiens sont de plus en plus bronzés au fil du film. Pourtant, les rares scènes en extérieur semblent tout avoir été tournées par temps gris. On entrevoit à peine les merveilles de la nature dont regorge l'île, alors que bon, il y a quand même en vrac un volcan, des cirques, des lagons, des forêts luxuriantes et des cascades. Mais la réalisatrice préfère tourner dans un club de vacances qui est lui-même si moche qu'on le croirait reconstitué en studio. Un peu dommage. Prix du public et de la meilleure actrice au dernier festival de l'Alpe d'Huez, Larguée a le mérite de faire rire tout en étant dans l'air du temps. À part une chose, par pitié, arrêtez de mettre dans toutes les comédies une scène où l'un des personnages chante un karaoké. Ça n'est jamais drôle et c'est toujours gênant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais à chaque fois, on y a droit. Et ça n'a jamais été drôle, ça, vraiment jamais. Enfin bref, on va écouter l'interview d'une partie de l'équipe du film, la réalisatrice Héloïse Lang et la comédienne Camille Chamou.
Je ne peux pas avoir fermé la porte.
Choisis ça comme tenue pour faire 11 heures d'avion. Tu comptes faire un peu de go-go dancing à bord ?
Et quand c'est confortable, c'est moche.
Avant, vouloir être trash ou vouloir être ci ou ça, c'est vouloir être identifiant, mm-hmm. qui est vraiment fort dans le scénar d'Elo. Et c'est vrai qu'on se reconnaissait dans la façon dont des gens d'une même famille se parlent, se jugent, dans la façon dont les filles parlent. D'amour, de sexe, de leur mère, enfin, c'est quelque chose d'identifiant. C'est ça, je pense, qui était vraiment, qui est fort dans le film, en fait.
Qu'est-ce que tu fais ?
Je suis pas prête, c'est trop tôt.
Allez, on lève les bras, bien tendu, et on actionne droite, gauche.
Moi, j'en peux plus de vos têtes de chien qui chient.
Tout le monde est derrière sa fonction. Les animateurs, ils sont derrière leur fonction d'animateur. La mère, elle est derrière sa fonction de dépressive maman dépressive et qui vient de se faire larguer. Les deux sœurs, elles sont derrière leur fonction, la punk et la psychorigide. Et tout le monde est derrière sa fonction familiale, sociale, etc. Et au fur et à mesure du film, on va globalement vers l'humanité de tous les personnages. Donc on se rend compte effectivement que l'animateur, bon bah il prend l'accent, mais en fait il appelle accent. Et on se rend compte que chacun a une vie pleine et une humanité derrière sa fonction. Les filles, c'est pareil, au fond, que ce soit les personnages secondaires ou principaux, le trajet du film, c'est d'aller vers leur humanité un peu plus complète, quoi.
Maman, elle a 60 ans, je te rappelle.
Ouais, et alors, quoi, qu'est-ce qui se passe? À 60 ans, ça y est, t'es plus une femme. T'es mamie Nova, c'est ça?
Le fait de les mettre, enfin, de le mettre au féminin pluriel et considérer que les trois sont larguées, j'aimais bien parce que si j'avais appelé ce film Larguée et que... ça aurait été très premier degré en fait, il y en a qu'une et elle a été larguée et c'est vrai et donc c'est presque le titre d'un drame quoi. En englobant toutes les trois et en voyant qu'effectivement il y en a une qui est larguée pour de vrai, mais les autres le sont un peu dans leur vie parce que voilà, elles doivent effectivement assumer leur choix de vie, leur place dans la famille, enfin tellement de choses et que finalement elles se débattent un peu dans tout ça quoi.
Qu'on reste sur notre plan de départ, sauver maman. C'est pour ça qu'on est là, non?
Enfin, ça va pas, on va pas tuer papa!
Mais pas nous. Maman, elle est quand même partie avec une infirmière de 30 ans. Et on sait pas depuis combien de temps elle dure l'histoire.
Oui, je pense que c'est important de raconter les femmes, quoi. Et effectivement, je pense qu'on est bien placé pour le faire. tout simplement, parce qu'effectivement, Les Gazettes, donc c'était écrit par Camille. Moi, j'ai écrit et réalisé ce film. Enfin, voilà, on a un regard, on a des choses à dire, et tant mieux qu'il y ait plein de femmes qui viennent donner un autre regard, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'hommes qui s'auto-censurent en fait dès qu'ils veulent parler des femmes. C'est même pas qu'ils le font pas exprès, mais ils osent pas y aller en se disant que. Et nous, effectivement, on a peut-être une plus grande liberté de ton et d'histoire, c'est chouette.
Vous croyez que le désir s'arrête quand on vieillit ?
Maman, on ne veut pas avoir cette conversation avec toi, pardon.
C'est très ironique d'ailleurs, vu que pour les hommes, ça devient plus compliqué.
Qu'est-ce qu'elle dit ?
À partir de 50 ans, c'est l'empire des sens, mais dans un monde de demi-molles. Oh.
Voilà un petit aperçu des dialogues de ce film Largué. C'était Camille Chamou, Héloïse Lang, la réalisatrice. Donc, film moche qui est tourné dans...
Mais drôle.
Mais drôle, voilà, moche mais drôle. Les femmes, encore à l'honneur d'une certaine manière, avec un biopic sur le créateur de Wonder Woman. Et c'est toi, Manu, qui nous en parle.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors, c'était sûrement une comédie.
Alors, si la mention inspirée d'une histoire vraie prête à sourire, un pléonasme pour un biopic, hein, celui de William Moulton Marston, créateur de la célèbre BD Wonder Woman en 1941, My Wonder Woman a pour mérite de nous entraîner au cœur d'une histoire peu connue du grand public et même auprès de certains fervents amateurs de comics. Alors, la naissance de Wonder Woman, hein, certainement l'héroïne de BD la plus connue au monde, hein, immortalisée sur le petit écran par la pulpeuse Linda Carter, hein, n'est finalement qu'un prétexte pour raconter la vie tumultueuse de Marston, professeur en psychologie, qui inventa également avec sa femme le détecteur de mensonges. Ah, c'est vrai, c'est assez étonnant, je ne savais pas. Alors, de la fin des années 20 aux années 40, hein, My Wonder Woman est centré autour de l'intimité de Marston et de sa femme, féministe forte en tête. Ce couple atypique va tomber amoureux d'une de leurs cobayes pour leurs expériences. Alors, cette sérénade à trois, pour reprendre le titre d'un film de Lubitsch, prend des allures de comédie dramatique scabreuse dès lors que notre oublion s'adonne aux joies du triolisme, saphisme et bondage, pour ne citer que quelques pratiques scandalisant les bonnes mœurs de l'époque. Alors, pratiques qui seront reprises de manière à la fois détournée explicite dans les strips de Wonder Woman, certainement l'une des œuvres graphiques les plus osées et provocatrices destinées à un jeune public. Alors rien d'étonnant, car Marston s'est largement inspiré de ses deux muses pour matérialiser son héroïne, incarnation, on va dire, d'un idéal féminin sexy et conquérant. Hélas, il est assez triste d'assister à un spectacle excitant sur le fond, mais d'une pudibonderie assez déconcertante dès qu'il s'agit de se confronter réellement au sujet. L'érotisme est un peu le grand absent de ce biopic qui, par la transparence de sa forme conservatrice, se contredit à chaque plan. Le film baigne, on va dire, dans un hygiénisme délesté de la moindre sensualité et transgression. Alors un peu cette dichotomie entre fond et forme, hein, entre cette mise en scène sage, sans une once d'inventivité et un récit foisonnant d'idées sulfureuses, est un peu le grand problème de ce film qui symbolise la schizophrénie d'un certain cinéma américain. Lorsqu'il s'agit de célébrer le destin de personnages singuliers, marginaux et hauts en couleur, pour qui la créativité est fondamentale au cœur d'un système étriqué, les réalisateurs font souvent exactement l'inverse et ça donne au pire des travers la joliesse illustrative. Alors My Wonder Woman, hein, est parsemé de dialogues bien écrits mais sursignifiants, se vaut complaisamment dans sa rutilante reconstitution des années 30-40 avec son esthétique chromo. Alors à aucun moment sans un désir de cinéma, mais rien ne vibre. Le virage cabreux du film avec ses scènes de bondage est abordé trop timidement, avec trop de condescendance et de second degré pour être honnête. La photo, tout en clair-obscur, avec un penchant pour les couleurs pastel, elle est très soignée, mais ôte toute trivialité à cette histoire de sexe à trois, dont on aurait quand même aimé voir un Cronenberg derrière la caméra pour donner, on va dire, un coup de sang ou de fouet à l'ensemble. Alors la première scène d'amour chorégraphiée, hein, comme un spot publicitaire, est symptomatique du manque total d'audace de l'ensemble. Alors rien d'étonnant lorsqu'on apprend que derrière la caméra se cache Angela Robinson, coupable du médiocre Debs, un film d'action un peu débile, et surtout de l'inutile relecture de La Coccinelle produit par Disney. Alors en fait, j'aurais dû commencer par cette information, cela m'aurait évité tout ce blabla inutile pour ce film pas désagréable mais désespérément lisse. Le vrai film punk sur le sujet reste à faire. En attendant, relisez les aventures de la super Amazon sexy luttant contre les nazis plutôt que cette production académique. Alors reste aussi pour un bon point les interprètes qui sont très très bons, à commencer par Rebecca Hall.
Merci Manu. On passe maintenant au blind test de cette émission en hommage à Milos Forman qui nous a quittés il y a peu.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi ça, une blague ou quoi ?
Et on va faire très vite, avec un premier extrait très facile.
Oh, l'amour, bien sûr ! Il va de soi qu'en Italie, nous ne savons rien des mystères de l'amour.
Non, vous en ignorez tout. Enfin, si l'on s'en réfère à vos opéras. Des sopranos mâles si égosillent, des couples gras et stupides roulent des yeux exorbités, rien à voir avec l'amour, pure foutaise. Majesté. Vous choisissez la langue. Je me ferai un devoir de l'orner de la plus belle musique jamais offerte à un monarque.
Bien, il en sera ainsi.
Alors, c'était très facile, évidemment.
C'était Amadeus.
Oui. Oui, un blind test Milos Forman, c'est aussi l'occasion juste de revenir sur sa filmographie, finalement. Parce que là aussi, ça, à mon avis, ça va être très facile.
Mais demandez-vous si vous pouvez décider à notre place. Parce que notre liberté, à nous tous qui assistons à cette audience, sera vraiment entre vos mains, à vous les jurés. Si nous commençons à élever des murs contre les choses que certaines personnes jugent obscènes, nous pourrions bien nous réveiller un beau matin et découvrir qu'on a élevé des murs un peu partout, dans les endroits les plus inattendus. Et que nous ne pouvons plus rien voir, plus rien faire. Et ce n'est pas ça la liberté.
Eh, c'est pas ça.
Non.
Et le film, c'est
Larry Flint.
Eh oui. Avec Woody Harrelson, et là, on écoutait Edward Norton qui fait son plaidoyer pour la liberté. Troisième extrait.
C'est bien George Shapiro ?
Oui, en personne.
En personne ? Tu m'étonnes, tu déconnes !
Je peux faire quelque chose pour vous?
Touche pas à Andy Kaufman! Si tu tiens à ta peau, mange le pioche!
On se connaît?
Mais tripote pas la nouille! Andouille! C'est Tony Clifton! Un nom qui inspire le respect et la crainte! Et Kaufman n'est qu'un sale menteur! Un psychopathe!
Ah. Ça a été trouvé. Ah,
c'est Man on the Moon.
Oui. Jim Carrey dans ses œuvres, même dans la version française, qui s'en tire plutôt bien. Et Shapiro était joué par Danny DeVito au téléphone. C'était sur la vie du comique américain Andy Kaufman. Quatrième extrait.
J'ai passé l'éponge toute ma vie. Vous êtes jeune, monsieur. Apprenez, c'est de votre âge.
Apprendre quoi? À être un bon nègre?
Je vous en prie, l'entretien est clos, allez-vous-en. Moi, j'ai à prendre en charge des situations très graves. J'ai des clients qui ont de vrais problèmes. La famine, la maladie, l'expropriation. Oui, j'ai faim de justice pour notre peuple, oui, très faim. Une faim tellement grande que j'en salive. Si vous croyez que je vais aller plaider pour un homme de couleur simplement parce qu'un blanc lui a sali sa belle voiture, alors là, vous vous êtes trompé d'avocat.
Et c'est trouvé encore. Et
c'est Ragtime, un des films les moins connus de sa période américaine. Mmh. Je crois qu'il est de 81, il me semble.
Film de 81, effectivement. Le portrait d'une société multiraciale et notamment eh bien, le combat d'un jeune noir qui commence à réussir pour obtenir justice. Là, on va terminer ce blind test avec encore plus facile que le premier film avec lequel on avait commencé.
L'autre jour, vous m'avez fait des allusions tous les deux.
Illusions ?
À ma sexualité, oui, des allusions. Allusion, pas illusion, allusion. Et aux divers problèmes que je pouvais avoir avec ma femme. D'accord, disons que c'est vrai, disons que moi je le tiens pas vrai, mais pas vous. Si c'est tout ce que vous m'apportez comme aide pour résoudre mes problèmes, je m'en passe.
Tu veux que je te dise tout ce que je pense? T'es qu'un pauvre trou du cul morbide.
Il est spécial,
trou du cul, ça fait longtemps.
C'est vrai que tu te sens spécial.
Tu parles de ta femme depuis que tu as mis les pieds ici, et c'est toujours pareil, et blablabla.
Hey, Beurre, je ne parle pas de ma femme, quand vous sortirez-vous ça de la cervelle, connard?
Connard.
Alors?
Et c'est voilà, tu gagnes de coucou.
Ouais. Bon, j'avais fait en sorte de ne pas prendre un extrait avec Jack Nicholson et ni sa voix française, mais voilà. C'est quand même trouvé, voilà. Ainsi s'achève ce blind test Milos Forman. On va se quitter maintenant avec eh bien, un film de Toundra.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Sonate pour Rousse, autrement appelé Disparaître dans son pays d'origine, hein, les Pays-Bas, et le troisième film de Budvinch Kool, un réalisateur issu du design qui a remporté en 2012 pour Little Bird, l'histoire d'un jeune garçon qui va nouer une relation avec un chouka, un oiseau donc, hein, le prix du meilleur film à la Berlinale. Oui. Changement de décor avec Sonate pour Rousse qui se déroule dans la toundra norvégienne. On y suit Rousse, donc une jeune trentenaire photographe qui rend visite à sa mère, une grande pianiste qui s'est retirée avec son ado dans un coin isolé du pays et très au nord. À l'image du décor froid et blanc, eh bien, les retrouvailles ne sont pas des plus chaleureuses et c'est ainsi à chaque visite. Disons que la mère tolère plus qu'elle n'accueille sa fille sans qu'on sache au premier abord ce qui a noué eh bien, cette relation. Pourtant, cette fois-ci, Rousse a quelque chose d'important à dire. Le film affiche alors ses ambitions, faire communiquer ces deux femmes. Pour cela, Rousse porte les estocades hein, pour fendre l'armure maternelle, mais de l'autre côté, eh bien, il y a de la réplique, de la fuite et parfois quelques mots quand même. Si la relation entre les deux femmes, dont on imagine qu'elle pourrait exploser, revient sans cesse et rythme le récit, eh bien, elle s'oppose au calme de la nature forcément grandiose et glaciale du Nord. De plus, Rousse, qui, de par son métier de photographe, aime à décrypter la nature et les êtres, eh bien, noue une relation presque intime avec son jeune demi-frère qui, lui, a choisi l'exploration sonore et notamment faire un orgue avec des pics de glace de différentes épaisseurs. Ça donne des séquences assez étonnantes et puis des belles expérimentations sonores au cinéma qui en manquent parfois. La jeune femme revoit également ce qu'on imagine être un vieil amant. C'est d'ailleurs après un acte pulsionnel, un acte charnel, qu'elle révèle la raison de sa visite. Sous une apparence de froideur, le film de Budvinch Kool fait éclore avec minutie des moments de sensibilité qui passent non seulement alors par l'exploration des visages, des expérimentations sonores, mais aussi des nombreuses photos que fait Rousse qui font ainsi l'objet d'arrêts sur image. De ce point de vue-là, on sent que le réalisateur hein, vient d'un milieu artistique tant il accorde de l'importance au cadre et à ce qui s'y déploie. Drame psychologique où Bergman n'est pas loin, Sonate pour nous use de métaphores comme le tourment intérieur des êtres qui s'opposent au calme impressionnant des paysages. On y croise aussi, mine de rien, des chiens de traîneau, figure récurrente hein, de l'adversité dans un milieu hostile. la mère qui raconte sa carrière de jeune pianiste, sacrifiant ainsi l'éducation de sa fille, est le point de bascule du film. Sonate pour nous, c'est un film graphique, un petit film précieux avec peu de personnages sur la relation mère-fille et plus loin sur la compréhension qui broie parfois les êtres. Solidement mise en scène et bien interprétée, Sonate pour nous vaut qu'on s'y attarde. Ça reste un petit film. Bon, moi, c'est aussi particulier parce que comme je suis allé en Norvège, j'ai retrouvé aussi la dimension d'un pays qui se confronte finalement au paysage intérieur des êtres. Ainsi s'achève ce cinérama.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Mais enfin contrôler qui est qui.
Quoi qui est qui?
Bah quoi qui est qui quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
La semaine prochaine, on retrouvera encore une interview dans Cinérama, celle de Max Bluebill et d'une partie de l'équipe de Comme des garçons.